Bonjour, chers écouteurs.
L'introduction. L'introduction, c'est un peu une carte de visite. C'est la partie stratégique. La partie où il faut séduire, montrer qu'on a compris le sujet. Il est essentiel d'être sourcilleux sur l'intro et bien décomposer les étapes. Tout d'abord, il faut une amorce.
Ce mois-ci, avant d'aborder notre dossier sur la nouvelle espèce animale en voie d'apparition, les escargots à grande vitesse, cette introduction au podcast va être plus courte que d'ordinaire, et elle se veut surtout être en forme d'excuse auprès de vous, mes 212 349 écoutrices et écouteurs déjà. En effet, celles et ceux qui ont écouté le dossier du mois dernier ont dû remarquer qu'une séquence malencontreuse était restée au montage final. Séquence dans laquelle on m'entend discuter avec Momo, mon jeune étudiant en stage de communication, qui m'assiste dans cette lourde tâche du podcast et en profite pour acquérir bien des compétences précieuses. Toutes mes excuses, chère écoutrice, chère écouteur, car cette partie où on m'entend parler avec Momo dans le studio devait donc disparaître au montage. Montage qui est d'ailleurs effectué justement par Momo. Je lui avais pourtant bien dit de ne pas oublier de couper ce passage, mais il a encore oublié. Enfin voilà, c'est Momo. Croyez-moi, ce n'est pas facile d'être maître de stage de Momo. En effet, temporairement, c'est Momo qui monte l'enregistrement. En plus, on travaille momentanément sur son ordinateur personnel et il ne classe pas très bien ses fichiers. C'était pourtant bien précisé dans ma petite annonce, stagiaire organisé, rigoureux, possédant un ordinateur. Enfin bref, bon, c'est comme ça, je suis vraiment désolé, ça ne se reproduira plus. J'espère que cela n'a pas nui à votre intérêt pour ce podcast. Qu'on se rassure toutefois, après une discussion avec Momo et ses parents qui m'ont proposé un dédommagement pour les dommages causés à l'image de sérieux de ce podcast, j'ai décidé, essentiellement motivé par l'avenir de Momo, je voudrais pas nuire à une carrière qui débute, de ne pas le sanctionner exceptionnellement. Il y en a pour moins que ça qui auraient saisi son ordinateur en guise de représailles, mais ce n'est pas mon genre. J'ai même évidemment signé tout de même sa convention de stage, je ne peux toujours pas le rémunérer malheureusement, mais vous savez comment c'est en ce moment, avec cette crise qu'on connaît tous, même dans les grands médias comme ici, et le peu d'argent aussi que le gouvernement donne aux acteurs de la culture. Enfin voilà, encore une fois toutes mes excuses, je vous remercie de votre compréhension et pour l'indulgence que vous aurez aussi pour Momo. On a tous été jeunes, hein, on a tous fait des erreurs, Momo a bien compris et a promis d'être plus rigoureux.
Et très rapidement, passer aux choses sérieuses.
Et maintenant, on peut passer au podcast proprement dit, à notre étonnant dossier du mois, les escargots à grande vitesse. Bien sûr, après la petite publicité habituelle qui nous permet de financer ce podcast, vous le comprendrez bien, financer ce podcast comme d'accueillir d'ailleurs mon stagiaire Momo dans des conditions dignes et évidentes, c'est-à-dire bien sûr que je n'ai pas hésité un seul instant à lui trouver une table et une chaise, du chauffage et l'accès aux toilettes. Oh non !
C'est bon, j'arrive.
Je parlais de toi justement, j'étais en train d'enregistrer mes excuses que je suis obligé de faire aux écouteurs là à cause de toi. Tu sais Momo que ma patience a des limites. Encore heureux que j'avais gardé l'ordinateur pour commencer le boulot. Alors Momo, c'est quoi ton excuse ce matin? C'est plus tes parents à l'agonie là, je les ai vus pour le chèque de toute façon. C'est quoi l'excuse? Non, je te crois pas. La fusée chinoise est retombée il y a déjà plusieurs jours et si j'en crois les Chinois et les probas. Il était de toute façon pas possible que ce soit justement sur le trajet domicile-travail de notre ami Momo, là. Non, tu te fiches de moi, là, Momo, là. Non. Bon, écoute, on laisse tomber, il faut que j'enregistre le podcast et on reparlera de tout ça. Tiens, Antoine Utile va me chercher un café. Ah zut, j'ai pas de monnaie. Momo, tu prends ta monnaie et tu m'offres un café, t'as intérêt à te faire pardonner de toute façon car t'es en retard, je te le rappelle. Et tu me le rapportes discrètement, ce café, car là, je m'en remets à l'enregistrement et j'aimerais pas que ça y reste. D'accord? Alors, un café, ouais. Sans sucre. Ouais. Hein?
Bon, j'en étais où avec tout ça? Je sais même plus si c'était coupé. Ça a l'air d'aller. Putain, je comprends rien. Non, c'est bon, j'avais coupé.
Voilà, chères écoutrices, chers écouteurs, ce podcast vous est proposé par Francis Misio, une réalisation de Le Niveau Baisse Productions. Alors, une petite pub avant notre dossier du mois, et hop, c'est parti.
Et lorsque l'on a fini l'intro, on sait tout de suite à qui on a affaire.
La machine à tricoter, RK, tricote pour vous et tricote tout.
Côte, maille à l'envers, à l'endroit, il vous faut
RK, RK.
Sur la terre, d'êtres humains sédentaires. Adieu le quaternaire, car nous entrons dans l'ère des effets secondaires.
Animales en voie d'apparition. Vous n'en croirez peut-être pas vos oreilles, vous n'en croirez peut-être même pas un mot, voire sans doute en rirez-vous. Présente, discrète, inoffensive ou dangereuse, elles se sont adaptées et continuent d'évoluer, car la nature ne lâchera rien. Vous, qui êtes bientôt en voie de disparition, aurez été prévenu.
L'escargot à grande vitesse. La nouvelle a fait l'effet d'une traînée de poudre dans le milieu de la néozoologie vitaliste, cette toute nouvelle science des espèces en voie d'apparition. Une espèce sauvage d'escargot était passée complètement inaperçue ces dernières années, l'escargot à grande vitesse, combinaison inattendue de mutations probablement dues à la pollution et d'un réflexe d'adaptation salvatrice de l'espèce originelle d'escargot face à une exploitation irraisonnée et ce qui s'annonçait hélas être une extinction programmée. Tout d'abord, cet escargot à grande vitesse, que certains appellent aussi escargot furtif, il nous faut le décrire.
Quand un orage survient, au cours d'un bel après-midi d'été, toute la nature s'immobilise. Les oiseaux et les insectes attendent à l'abri la fin de l'averse. Mais tous les porteurs de coquilles mettent enfin le nez dehors. Quel rêve ! Nous allons pouvoir faire connaissance avec les escargots.
Les rares spécimens qui ont pu être examinés depuis sa découverte, plutôt par hasard, par des ornithologues qui avaient posé trop bas des filets pour la capture d'oiseaux, ou par des ramasseurs d'escargots aguerris, appartiennent visiblement à l'espèce commune dite escargot de Bourgogne, Helix pomatia, connue depuis 1758, date de sa description par le naturaliste suédois Carl von Linné.
Je ne t'apprendrai rien en te disant qu'ils habitent tous dans une coquille aux couleurs variées et aux formes diverses.
L'espèce Helix pomatia, qui est, rappelons-le, une espèce protégée depuis 1979 en France...
Tu connais bien celui-là, on le trouve partout.
...est l'objet d'une protection spéciale prévoyant l'interdiction du ramassage pendant la période de reproduction du 1er avril au 30 juin inclus. Durant les autres mois de l'année, le ramassage de l'escargot de Bourgogne est autorisé, à l'exception des sujets dont le diamètre est inférieur à 3 cm. Ceux qui sont vendus dans le commerce proviennent de ramassages naturels dans les pays de l'Est. Mais jusque-là, ces escargots étaient lents.
Mais d'autres sont plus originaux et ils habitent ailleurs.
La nouvelle espèce de type EGV, escargot à grande vitesse, escargot furtif, comme vous voulez, baptisé Helix pomatia mobilitas magna, est donc une évolution d'Helix pomatia dont il a les mêmes caractéristiques. Sa coquille qu'il construit en grandissant est à lui aussi de blanche à légèrement brune, avec souvent une bande brune indistincte. Mais à la différence de l'escargot de Bourgogne qui a une coquille de 30 à 45 mm par 30 à 50,
pour un poids adulte de 25 à 45 grammes, celle de l'escargot à grande vitesse a une coquille profilée, soit 20 sur 20 par 20 sur 20, et un poids de 15 grammes, avec en doute un agrandissement des yeux devenu cerclé de noir comme des lunettes de pilote automobile. Et, surtout, une excroissance sur l'arrière de la coquille qui n'est pas sans rappeler le béquet arrière des automobiles tunées, comme celle par exemple de votre voisin Jackie. Enfin, on notera comme autre différence avec l'espèce traditionnelle dite de Bourgogne que le corps de l'escargot furtif est très musculeux. Le pied de l'escargot à grande vitesse est en effet particulièrement dur avec des empreintes en forme de petits crampons qui ne laissent pas de traînées luisantes et baveux sur son passage, mais qui le trahissent en revanche par les traces de démarrage noirâtre laissées en échauffant le sol ou l'humus sur lequel il se trouvait.
Malgré leur lourde coquille, les escargots aiment le sport. D'accord, on ne peut pas dire qu'ils soient encore prêts pour les Jeux Olympiques, mais tout de même...
Pour le reste, habitat, alimentation, on en sait très peu encore car l'espèce des escargots furtifs n'a été découverte que récemment. On y reviendra. Mais on suppose que ce sont les mêmes éléments que pour l'escargot de Bourgogne, herbivore et détritivore pour une répartition géographique de l'Europe centrale à l'Europe du Nord. On suppose qu'à la différence de son cousin classique, Helix pomatia, le nouveau Helix pomatia mobilitas magna migre sans doute davantage que dans les 3 à 6 mètres environnants habituels, puisque pour s'arrêter pour sa part, quand il se déplace, il lui faut près d'une dizaine de mètres de distance de freinage.
Le corps de l'escargot est assez spécial. C'est juste une grosse masse de muscles qui contient tous les organes vitaux. La tête est surmontée de cornes souples. Au repos, tout cela entre dans la coquille. En revanche, l'escargot étale son pied lorsqu'il part au triple galop pour une direction que lui seul connaît d'ailleurs.
Cet escargot étonnant, l'escargot à grande vitesse, a été découvert notamment par hasard par un jeune garçon, Nils, que nous avons retrouvé et accompagné dans les bois. Hélas, nous n'avons pas déniché d'escargot à grande vitesse cette fois-là. Sans doute notre battue n'était pas assez silencieuse, mais Nils témoigne.
On repart là-haut ? Et s'il fait beau, on peut repartir là-haut ou plus doucement ?
Alors vous êtes le premier à avoir découvert un escargot à grande vitesse. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement, comment ça s'est passé, présentez-vous aussi pour les auditeurs et dites-nous comment ça s'est passé, en quelles circonstances vous avez trouvé des escargots à grande vitesse.
D'accord. Déjà, je m'appelle Nils. C'est que j'étais avec des amis. On était allés partir chercher des champignons. Comme il avait plu, d'un coup, je vois un escargot. Un escargot, j'aime bien. Du coup, j'essaie de le rattraper. Et là, d'un coup, il part très vite. Il va à une grande vitesse. Du coup, j'ai une course et tout ça. C'est une course poursuite dans la forêt avec un escargot. Et là, je l'attrape. Du coup, je montre à tout le monde. On décide d'aller voir un pharmacien. Il l'a étudié. Il a dit que c'était bizarre.
Et à quoi on les reconnaît alors, comment ils sont?
Bah alors c'est leur coquille en fait. Leur coquille elle est pas ronde. C'est en fait elle a la forme un peu d'une voiture. Et du coup bah c'est assez facile à reconnaître. Et voilà.
Et vous avez un conseil à donner pour ceux qui pourraient en repérer et qui voudraient en attraper d'autres?
Bah alors d'abord faut aller chercher dans la forêt. Après la pluie. Des fois, il y a des traces de ruisseaux dans la forêt. Et bah, normalement, moi je l'ai trouvé vers là. Et du coup, bah, je pense qu'ils vivent vers là.
C'est des traces de démarrage? C'est les escargots qui accélèrent d'un seul coup? Ou ça, c'est un peu comme un peu les pneus sur le béton? Ou c'est dans les feuilles? Ou...
L'apparition de ce nouvel escargot serait due, on le disait, soit à un réflexe de survie de l'espèce classique dite de Bourgogne, Helix pomatia, dont les périodes de ramassage ne sont guère respectées, réflexe devenu inné et à caractère évolutif, car peut-être cherchait-il depuis tout ce temps à échapper lentement et toujours aux ramasseurs et prédateurs en s'enfuyant au mieux, soit l'apparition serait due peut-être à une mutation liée à la radioactivité laissée par le nuage de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 qui a survolé l'Europe centrale. il est possible que des spécimens ukrainiens mutants devenus super escargots à grande vitesse, parce qu'ayant absorbé de la radioactivité, se soient répandus très rapidement, forcément hors de leur zone d'apparition. Plus résistants tant aux maladies qu'aux prédateurs, y compris à l'homme qui a beau désormais courir après, les escargots furtifs se seraient mêlés aux populations des Lix pomatia originelles. Toutefois, cela reste à prouver, car dans l'état actuel des observations, aucun escargot radioactif, lumineux ni furtif n'a été remarqué de nuit. On les aurait vus tels des étoiles filantes dans les sous-bois, mais ce n'est pour l'instant pas le cas. Pour en savoir plus, nous avons interrogé Marc Nifiosis, qui est un expert spécialiste des escargots atypiques. Il répond à nos questions. Bonjour et merci d'intervenir sur le documentaire. Nous manquons toujours un peu d'experts crédibles pour faire entendre les cris d'alerte de sonnette d'alarme que nous poussons et tirons. Je vous présente Marc Nifiosis. Vous êtes un expert reconnu en escargot atypique, auteur de 2 livres qui font date. L'escargot atypique, c'est ma passion. Et le second, l'hermaphrodisme, est-il un humanisme? Tous deux parus aux éditions Le Niveau Baisse, par ailleurs productrice de ce podcast. Alors Marc, j'ai envie de dire, pourquoi l'escargot atypique?
L'escargot atypique, en fait, c'est ma passion. Depuis toujours, j'ai trouvé que les gens avaient un rapport assez banalisé avec les escargots. Vous savez ce que c'est? Soit on dit qu'on les mange, soit on dit quelle saleté, ils bouffent ma salade. C'est à ce niveau, le rapport aux escargots, je dirais, c'est simpliste. En fait, les gens s'intéressent vraiment aux escargots seulement lorsqu'ils sont atypiques. Par exemple, si la spirale de la coquille tourne à l'envers. Et de fil en aiguille, je m'y suis intéressé aussi.
Vous vous intéressez aussi au bulot?
Alors, non, je fais pas le bulot. D'autres font le bulot. Moi, je fais pas le bulot. D'abord, il n'y a pas assez de bulot atypique, puis c'est bien intéressant à part, puisqu'ils sont au bout de la chaîne alimentaire, à servir à dater les cadavres retrouvés en mer. Hein. Je dis ça aux amateurs de bulot, enfin je dis ça, je dis rien, bon appétit, c'est tout. Pour ma part, j'ai assez à faire avec les escargots de terre, d'autant plus avec cette nouvelle espèce à grande vitesse, car je prépare rapidement, du coup, un livre sur le sujet.
Une autre question qui s'impose immédiatement à nos écoutrices et nos écouteurs. Quelles conséquences, j'ai envie de dire, voyez-vous à la suite de l'apparition de l'escargot à grande vitesse?
Tout d'abord, merci de me laisser la parole. La cause de l'escargot atypique est toujours négligée et il est heureux de constater que les grands médias comme vous s'en emparent enfin. Pour répondre à votre question, quelles conséquences à la suite de l'apparition de l'espèce? J'ai envie de dire, elles sont de plusieurs ordres. J'y vois des conséquences médicales et psychologiques, techniques et économiques, et hélas en termes d'accidentologie et de législation. Je m'explique. Tout d'abord, on va commencer par les bonnes conséquences. Conséquences médicales et psychologiques. Car voilà enfin une bonne nouvelle pour les phobiques des escargots, les gens que l'on dit entelmophobes. Nulle crainte de marcher sur un escargot, d'en croiser un, il aura filé très vite loin de vous. Une phobie va disparaître et on ne va pas s'en plaindre, surtout si on était justement phobique. On pourra toujours se reporter sur les araignées ou autres, mais pour l'escargot, c'est réglé. conséquences techniques, il y a certainement des études de biodesign à mener. Les ingénieurs, designers, architectes feraient bien de se pencher sur le profilage aérodynamique de la coquille de l'escargot à grande vitesse. Il y a sans doute des gains de compétitivité, des économies d'énergie à faire en s'inspirant de ce que la nature crée, qui est nature, qui est, comme on le sait maintenant, si généreuse. Conséquences économiques, si l'on venait à pouvoir en élever, déjà élever des escargots classiques, c'est pas simple, mais supposons qu'on puisse élever des escargots à grande vitesse, il y a certainement un marché gastronomique à lancer en France sous l'aspect nouveauté, sinon à voir avec le Japon qui est toujours goûteur de trucs et de machins bizarres. Le côté insolite et nouveau peut les attirer. Ensuite, l'escargot à grande vitesse est raide comme une vieille semelle de sandales mexicaines taillées dans un vieux pneu. Ça peut vraiment leur plaire. Ce sont pas des gens comme nous, ne l'oublions pas.
Alors là, j'ai envie de rebondir, et puis j'ai envie de dire... Vous pensez que l'escargot à grande vitesse pourrait aider notre pays à combler son retard dans la relance économique à la sortie de la crise actuelle ?
On peut tout imaginer. Ça a marché avec le train à grande vitesse, le TGV qui a tiré l'industrie dans son secteur. Pourquoi pas le GV, l'escargot à grande vitesse ne fera-t-il pas sa part ? Alors que les consommateurs sont demandeurs davantage de nature, de bio, de nouveautés venues de la terre. Le GV dans le sillon du TGV, ouais, je le vois bien. Et enfin, pour terminer, je voudrais revenir, si vous permettez, je vois hélas aussi des conséquences néfastes. Des conséquences accidentogènes. Là, c'est moins bien. Je m'attends à des accidents de chasse aux escargots, je veux dire. Si l'espèce se répand et comme elle ne sera pas encore protégée, le public va vouloir en ramasser, forcément. Et comme le législateur sera plus lent que l'escargot, que va-t-il se passer ? Je vois déjà les gens traînés par l'animal lors d'un ramassage qui percute un arbre, les explosions de bourriches chez plusieurs spécimens démarrent au concert, des traversées d'escargots qui oseront désormais franchir imprudemment nos routes devant des automobilistes surpris. Enfin, ce genre de drame. Et les accidents dans le restaurant aussi. Plus on en consommera, plus il y aura hélas de risques d'accidents du travail, par exemple, s'ils s'échappent de leur seau en mettant le bazar en cuisine. Il y a du risque, voyez-vous, et il ne faut pas le négliger. Enfin, vous voyez, je lance quelques pistes prospectives. Il faut penser en termes de législation. Il ne faut pas s'inquiéter, mais on peut vraiment craindre le pire. C'est pourquoi il faut absolument anticiper et prendre l'escargot de vitesse. Une mission d'expert pourrait être nommée à ce titre, et en tout cas je la préconise. Mission dans laquelle d'ailleurs je veux bien investir à temps plein si je puis apporter mes compétences.
Oui, parce que j'ai oublié de préciser que malheureusement à cause de la pandémie de Covid-19, vous avez dû arrêter vos conférences et les dédicaces de vos ouvrages. Et vous êtes, je regarde mes fiches, actuellement livreur pédaleur chez Deliveroo.
Tiens, une question d'ailleurs. J'ai envie de dire, de rebondir et de dire, être livreur pédaleur chez Deliveroo, à aller toujours plus vite pour livrer de la fast-food, n'est-ce pas un peu en contradiction avec les enseignements de l'escargot qui semble faire l'éloge de la lenteur ?
Non, plus maintenant, plus avec l'escargot grande vitesse, là.
Écoutez, Marc Nifiosiste, merci beaucoup pour ces éclaircissements. J'ai envie de vous demander, en rebondissant, des projets peut-être ?
Oui, un polar à sortir qui va se dérouler chez les syndicats d'agriculteurs qui sont nos amis et qui ont bien du souci.
Ah oui, et cela sort d'où ? Quel est son titre, j'ai envie de dire ?
Comme mes autres livres, il sera publié aux éditions Le Niveau Baisse. Et le titre sera « Même l'opération escargot est bientôt finie ».
Eh oui, et j'ai envie de dire encore une conséquence de l'apparition de l'escargot à grande vitesse. Il sort quand, ce polar ?
Bientôt, dans quelques semaines, c'est terminé d'écrire, c'est mis en page, on relit. On est juste en train de traquer les dernières coquilles.
Voilà, encore une fois, le documentaire vous aura prévenu en alarmant le tirage de sonnette poussé par l'alerte. L'espèce des escargots à grande vitesse a, pour l'instant, l'air de n'être qu'une aimable curiosité. Mais comme toutes les espèces animales en voie d'apparition, celle-ci va se répandre. Et on l'a vu, avec des conséquences tous azimuts, parfois inattendues, parfois bonnes, parfois inquiétantes. Il nous convient donc d'être plus que jamais vigilants sur les évolutions de la nature face aux défis écologiques et climatiques actuels. Car comme dit le récent proverbe, même si du tri sélectif tu feras, tu ne sais pas dans quel bac au final on te mettra. Ça y est, c'est fini. Enfin.